Bonjour à toutes et à tous, c'est Crème de la Crème sur Canal B avec Yann pendant une heure, pour une dernière heure, avant une pause estivale. Vous entendrez aujourd'hui, puisque c'est le dernier vendredi du mois, et bien une rencontre avec une personnalité du monde des arts, du spectacle, qui se promène au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres. C'est Champs Libres à DJ Martin. Aujourd'hui, infatigable DJ, digger, producteur, patron de label, graffiteur et j'en passe. On pourra se balader dans des ambiances très funky aujourd'hui qui nous emmèneront du côté de l'Égypte en fin de partie tout à l'heure, mais qui passeront aussi par la musique indienne, par un grand producteur américain, un grand compositeur argentin. Et puis dans quelques instants, pour commencer, une surprise pour ceux qui ne connaissent pas DJ Martin, qui nous fera entendre une pièce pas si récente, plutôt du début du XXe siècle. Bonne émission à toutes et à tous, c'est Champs Libres à DJ Martin. Dernier vendredi par mois, vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices de Canal B et de Crème de la Crème, c'est Champs Libres à cette carte blanche en partenariat avec la Bibliothèque des Champs Libres, le deuxième étage de la Bibliothèque des Champs Libres, où chaque mois, une personnalité du monde des arts, du spectacle, de la culture, de la musique, de la danse, là c'est un peu tout en même temps en fait, va se balader au deuxième étage de cette même bibliothèque et nous rapporte quelques CD, quelques livres, quelques DVD qui ont un peu forgé sa culture musicale, artistique, plastique et autres. Et aujourd'hui, eh bien c'est vraiment un artiste qui est au croisement de pas mal de disciplines qui viennent, pour quelques-unes en tout cas, de la culture hip-hop. Il y a le graffiti, il y a la production, le beatmaking, il y a aussi le breakdance. Tout ça, c'est DJ Martin qui vit avec tout ça, qui fait vivre tout ça. Bonjour DJ Martin.
Salut, oh là là, c'est une très belle présentation. Alors, merci,
c'est une
beaucoup
présentation un peu improvisée.
Je rougis là.
Ouais. Je pourrais t'appeler comme les grands gamins t'avais appelé il n'y a pas si longtemps, le roi de la funk, ouais, carrément.
Il n'y a pas droit chez nous, mais oui.
On te reçoit aujourd'hui parce que tu as aussi au Champs Libres, il y a quelques semaines, eh bien, un important événement, puisque tu as pu y proposer tes sélections mixées pour... pas un concours de breakdance vraiment, mais il y a eu du breaking ce jour-là quand Sydney est venu.
Oui, alors bonjour, déjà bonjour à tous. Et oui, en fait, c'était une petite conférence sur le hip-hop et sur la danse hip-hop. Et puis du coup, voilà, on était avec et Sydney et les danseurs, à savoir les danseurs du collectif The Rats, donc de Rennes, qui font partie des meilleurs danseurs français et certains qui font partie des 20 meilleurs danseurs mondiaux. Et du coup, voilà, c'était une conférence sur la danse hip-hop et on est parti de toute l'histoire du jazz en remontant jusque les années 80, dont on avait la présence de Sydney qui a eu la première émission hip-hop en France, et puis jusqu'à aujourd'hui où on s'approche le break sera cette année la seule et unique fois aux Jeux Olympiques. Donc voilà, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, ça fait partie de l'histoire de danseurs qui ont commencé sur des cartons et puis qui aujourd'hui sont représentés, qu'on voit un petit peu partout.
Je ne sais pas si on arrivera à parler de tout ce qu'on a imaginé, qu'on évoquerait dans cette discussion avec DJ Martin. Le bonhomme a pas mal de choses à raconter, je crois. Je t'appelle le bonhomme, ça ne te dérange pas?
Pas du tout. Et puis, nécessairement, c'est une pipelette, le bonhomme.
Alors, DJ Martin, première interruption musicale, c'est pas une interruption, c'est une révélation musicale. On en reparle juste après. Thank you. Alors évidemment, on pourrait s'attendre, te connaissant, et les Rennais te connaissent quand même, tu es activiste ici sur la scène musicale depuis 20 ans, 30 ans, combien de temps exactement ?
Je suis arrivé à Rennes en 1996. Donc on peut dire que
presque
j'ai commencé.
30 ans.
Ouais, voilà, c'est ça.
Avec des mix enflammés, pas mal de funk, de BO, des productions aussi.
Un petit label,
Funky Bijou,
voilà, Funky Bijou, le label Stéréofonk, on sort des disques d'autres personnes.
Donc on se dirait bon ben voilà, il va nous faire entendre Kool Herc, Africa Bambaata, du... Eh ben non. Parce
non.
Qu'on écoutait
alors déjà pas Africa Bambaata parce que voilà, ni Africa Bambaata, ni Bill Cosby, ni tous ces gens-là, désolé. Voilà, je fais partie de la cancel culture, qu'on le veuille ou non. Non, je rigole, mais non, en tout cas voilà, je passerai pas ces trucs-là. Et bah oui, Eric Satie, alors quand on aime la musique, on aime toutes les musiques, je pense. Ceux qui diront le contraire, c'est des cons. Non, c'est pas vrai. Mais et surtout, voilà. Je suis un grand fan d'Eric Satie par ses mélodies, par aussi comment on dit ça, le minimalisme, et puis le gars en lui-même en fait. Son histoire elle est quand même assez extraordinaire. C'est il fait partie comme les peintres, les grands peintres, de gens qui ont été reconnus juste avant leur mort, ou bah les peintres c'est plus après leur mort, mais là lui juste avant leur mort. Par rapport au hip-hop, au beatmaking, on peut dire que c'est un des premiers mecs. Qui a fait de la boucle en fait, qui a inventé la boucle. Ça a quand même été une référence, il faut pas oublier le beau Léo de Ravel, bah en fait c'est inspiré de Satie, une grosse partie de l'œuvre de Debussy c'est inspiré d'Eric Satie, tout ça ils étaient copains plus ou moins et tout etc, mais il y en a qu'un seul qui a mangé des cailloux toute sa vie, c'est lui. Et puis il était à moitié barge en plus, il a monté une secte où il était le seul mec de la secte. Ouais, c'était assez intéressant. Et justement, pour ceux qui savent pas, eh ben ça tombe bien, il y a des livres. Donc là j'ai ramené un livre qui s'appelle Aimé Satie, j'en ai emprunté un autre pareil à la bibliothèque, justement où il parle un petit peu de son histoire. De Eric Satie, pratiquement toute sa vie n'a pas eu de piano en fait. Il a jamais joué chez lui en fait. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il ses morceaux, il les composait soit en écrivant, soit il jouait chez les autres gens. C'est pour ceux qui font de la musique, c'est incroyable.
Et finalement, ça peut rejoindre aussi la culture hip-hop parce qu'ils n'avaient pas d'instruments forcément. Ceux qui voulaient faire de la musique, mais ils en faisaient quand même avec des instruments qu'ils ont détournés.
Et détournés, ou par exemple comme les grands albums de Public Enemy, au bout du compte les morceaux ils étaient faits dans les studios et c'était l'ingénieur du son qui faisait les boucles et tout, parce que c'est eux qui avaient les sampleurs et tout. Donc quelque part c'est un petit pas la même histoire, mais voilà, on parle encore des gens d'en bas qui ont réussi à créer des œuvres magistrales. Donc oui, dans ce sens-là, oui, on peut faire le lien.
On commence très fort avec DJ Martin dans son livre aujourd'hui. On va écouter de la musique, pas beaucoup parce qu'on va beaucoup parler, il me semble bien.
Malheureusement.
On a commencé avec Eric Satie et on poursuivra dans un instant autrement. Mais Eric Satie, toi tu l'as découvert tout jeune, tu es né quoi, dans les années 1970?
Je suis né en 75. Alors j'ai découvert Satie à mon adolescence grâce à mes parents, si je dis pas de bêtises. Alors avant ça, comme malheureusement on peut pas parler de tout, mais par exemple j'aime bien citer, justement je te racontais l'anecdote juste avant, Beethoven, c'est-à-dire que pour un de mes anniversaires mes parents m'ont offert une cassette donc de Beethoven, c'était la 5e symphonie, tatatatin, pour ceux qui connaissent pas, voilà, je dis ça en rigolant, c'est que cette 5e symphonie est ce que au classique ce que on peut retrouver dans le punk ou dans la puissance du hip-hop, ou à un moment j'ai pas mal écouté de métal pareil, je cherchais des choses assez puissantes. Et bah là voilà, je pense que je dis en rigolant, voilà, si j'avais écouté la 9e symphonie ou voilà l'hymne à la joie ou Vivaldi, bah peut-être que j'aurais pas aimé la musique de la même façon, quoi.
On n'écoutera pas Beethoven là,
non.
Mais
ni Wagner
ni Wagner, mais donc la découverte de ces univers forts comme ça en musique d'abord, sans doute apparemment, ça passe donc par ce qu'il y a déjà à la maison, ou tu fréquentes déjà quelques la bibliothèque des potes, les bibliothèques juste à côté de chez toi.
Alors moi je viens de Gennevilliers dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, Et effectivement, Gennevilliers, je fais pas une pub pour Gennevilliers, mais ville communiste, avec beaucoup d'engagement culturel, artistique, etc. Donc, il y avait une belle bibliothèque, une belle discothèque, où j'ai passé beaucoup de temps, parce que voilà, mes parents y travaillaient, donc le mercredi après-midi, on allait traîner là-bas. J'ai découvert plein de choses. Pareil, toi, Yann, qui est un amoureux de la musique, encore une fois, mes parents, et je les remercie pour ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une belle éducation, on va dire, musicale. Et notamment il y avait aussi tout ce qui est, alors aujourd'hui ça n'existe plus, mais piccolo, saxo, piccolo et saxo et tout ça. Et pour la petite histoire, si tu regardes piccolo, saxo, qui est-ce qui jouait derrière, bah, c'est les grands noms de la librairie musicale, de l'illustration sonore, c'est Paul Pio, c'est je sais plus comment ils s'appellent les autres et tout, mais au bout du compte tout ça c'est lié en fait. Quand j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps, j'ai compris pourquoi toute cette musique nous touchait, et j'en profite, là je fais l'animateur, mais c'est pas ça, et ça fait le pont, justement, l'influence des bibliothèques, l'influence de la musique de notre jeunesse, et l'influence, par exemple, des séries télé
de la télévision.
On pouvait regarder.
Je savais que t'allais arriver là. On va écouter un peu de musique, d'illustration de séries télé, puis on continue à parler juste après avec DJ Martin. Starsky et Hutch, les deux cowboys new-yorkais de nos dimanches après-midi, sans doute à toi et à moi, ouais. Eh bien, a été illustré en musique par l'un des plus grands compositeurs de musique pour l'image au monde, sans doute. Je te laisse nous en parler.
Eh ben, Lalo Schifrin, voilà. Alors, où on peut parler de la musique, oui. Et moi, je me rappelle, je regardais les séries télé, je regardais ça, Starsky Hutch. En plus, c'est marrant parce que c'est le dimanche après-midi sur TF1 et HIP à choper.
C'était la veille, sur TF1 aussi.
Voilà, juste après ou juste avant, je sais plus. Et bon, bref. Et voilà, ces séries télé, je me rappelle que je buguais déjà sur les musiques derrière, surtout pas le générique, mais les musiques qu'il y avait derrière. Et il y a pas longtemps, genre. Et ouais, une petite quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années, j'ai découvert que parmi les différents, il y avait différents producteurs ou en tout cas compositeurs, et parmi les producteurs, il y avait Lalo Schifrin, et j'étais déjà fan. Alors, pour ceux qui connaissent pas Lalo Schifrin, c'est Mission Impossible, c'est aussi
c'est Manix.
Voilà, c'est Manix voilà et
Le temps de la mer, plein d'autres choses.
Voilà, énormément de films et de musique de séries télé. Et ouais, c'est la révélation pour moi. Et justement, Enter the Dragon, c'est comme les Hunters, Serbian Cock, tout ça, c'est les moments, c'est les souvenirs, on va dire, de musique où c'est pas de la variété que t'entends à la radio,
ça commence à devenir funky. Sérieux, c'est pas ce que c'est, et ça donne envie d'aller plus loin.
C'est ça, t'as envie d'aller chercher et de comprendre pourquoi les mecs ils font une musique comme ça.
Bruce Lee, bien sûr, le roi de la chorégraphie au cinéma, et bien accompagné par Lalo Schifrin sur cette BO de Enter the Dragon. Alors la télévision, tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, c'est sûr, il y avait Sydney à la télé en 84 par là, et puis Starsky Hutch peut-être un petit peu avant, et là on voyait deux flics à New York avec leurs Zebra 3 assez jolis, et puis bien sûr Antonio Fargas, Guy Les Bontuyaux, et puis la culture noire comme ça qu'on voyait.
Captain Dobby.
Et Captain Dobby, ouais. Bien sûr. Ouais. Donc la culture de rue, la culture de la communauté noire américaine, le funk déjà un peu. Ça t'a tout de suite frappé aussi?
Alors effectivement, tu vois, même il y a des trucs qu'on se rend pas compte et on s'en rend compte en parlant. Effectivement, tout ça c'est lié en fait. On peut se dire que sans rentrer dans les débats dans ce moment, Starsky et Hutch, ils étaient plus de gauche que Inspecteur Harry.
Et pourtant la musique était pas mal aussi, ouais,
c'était aussi la Lochifrine aussi, voilà. Mais voilà, où Charles Bronson, un justicier dans la ville et tout. Mais oui, effectivement, il y avait quand même un côté entre les deux, on va dire. Maintenant, réfléchissant, c'était des flics, mais c'était des bons flics, on va dire. Entre guillemets, et puis il y avait New York, la culture de la rue, les bars, les pimps, Guy Les Bontuyaux, c'était quand même un proxénète, et puis c'était aussi une belle balance aussi aujourd'hui.
Mais
quand
c'était
tu
un
penses,
héros ouais. des films Blaxploitation du début des années 70.
Exactement, et tout ça, et ce qui est marrant, tu vois, par exemple, Captain Dobby, il a sorti des albums de funk, donc incroyable, dans les années 80 et tout, il a fait des super trucs et tout. Donc voilà, tout ça c'est lié. C'est un des trucs qu'a forgé mon identité culturelle et sonore et musicale et tout ce qui va avec.
On peut pas s'imaginer évidemment que ta culture musicale ne soit venue que du foyer familial ou des bibliothèques, parce que t'es tout de suite un peu à l'étroit, j'imagine, dans ce qui est pourtant un monde incroyable à découvrir. Mais toi, tu as envie de creuser, peut-être de diguer, c'est le terme, un peu plus loin. Tu commences à te rendre compte quand qu'il faut la chercher, cette matière qui te servira plus tard pour la sampler, pour t'en inspirer, pour donner une excitation musicale.
Et tu vois, c'est marrant de ce que tu dis. Déjà, je diguais dans les disques de mes parents. Mes parents, ils avaient plein de musiques différentes. J'ai eu la chance, pareil, d'écouter... par exemple, j'étais un grand fan, et toujours, de Julia Migenes Johnson. Donc, c'est Carmen Bizet. Pareil, qu'on a repris longtemps. Farandole, ça fait lien en plus avec CTI et tout ça. Non, mais c'est là, et je le dis aux auditeurs, j'en ai des frissons. Parce que quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pas par hasard, en fait. L'amour est enfant de bohème, et tout, ça a participé à la création de ma culture, et en même temps mes parents, j'ai retrouvé des disques de King Crimson chez mes parents sans savoir au départ ce que c'était. Ma mère écoutait les Beatles, elle a eu la chance de les voir avant qu'ils soient connus. Mes parents, ils avaient Paranoid de Black Sabbath. C'est assez éclectique et en même temps il y avait des disques de Yves Duteil et voilà, il y avait plein de choses différentes quoi. Ben ça, t'apprends à chercher. Et pareil, je me rappelle quand j'étais petit, j'écoutais la radio et j'enregistrais les émissions de radio et puis après je cherchais. Je me rappelle que quand j'étais au collège, j'allais demander à mes profs, d'ailleurs ma prof de musique ou ma prof d'anglais, qu'est-ce qu'elle était nulle, excusez-moi, mais non, mais parce que...
Elle comprenait pas les paroles.
Non mais c'est ça, je venais avec les articles qui parlaient de Cypress Hill et je leur demandais pourquoi, ça veut dire quoi blunt et tout, et voilà, elle connaissait
pas. Ah, peut-être qu'elle voulait pas dire,
non,
en fait.
Peut-être qu'elle voulait pas dire. Ou non, je me rappelle d'une prof, je suis désolé, hein, j'incite, mais il y avait une chanson de, comment ça s'appelait, Sam, je sais plus comment, c'était un truc qui passait à la radio, Stop, You Better Stop, You Better Stop.
Sam Brown, ouais.
Ouais, Sam Brown. Et à la radio, le mec, il disait, ouais, avec un superbe solo d'Orgamon. Et j'étais allé voir ma prof de... Ça m'a choqué, ça. Ma prof de musique. Et j'avais demandé, c'est quoi un Orgamon ? Et elle savait pas. Voilà.
Bon, peut-être, elle était peut-être pas assez douée.
C'est pas de sa faute. On leur en veut pas. Je respecte énormément tous les profs et tout le boulot qu'ils font. Voilà. Alors, c'était dur.
Il y a eu quand même dans ton enfance, j'imagine, des disques qui ont été des succès incroyables, dont tu t'es rendu compte de l'importance. Peut-être pas sur le moment, même si Thriller est un classique pour tout le monde, normalement. Mais est-ce que tu as vu tout de suite qu'il y avait l'importance du producteur derrière ?
Je vais te raconter une mini-anecdote, je vais essayer de faire vite. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, par exemple. Alors, vous allez halluciner, mais j'ai découvert un disque. Mon pote Deheb, avec qui je fais Funky Bijou, m'a fait découvrir un disque de prog... on va dire, allez, musique progressive, un peu jazz funk allemande. Le disque s'appelle Electric Butterfly, c'est magnifique. C'est un disque qui vaut la peau du cul, donc j'ai juste le MP3, malheureusement. Il y a un morceau dedans qui est magnifique, et sur le même disque, il y a l'instrumental, c'est sorti bien avant, d'un, comme ils disent les Allemands, d'un Schlager, donc une chanson populaire, et en fait, c'est La Danse des Canards. Et sur le même disque, donc aujourd'hui, et en fait, La Danse des Canards, c'est inspiré de ce disque-là, prog progressif ultra rare allemand. Donc voilà, d'où l'importance aussi des producteurs. Et non, pour être plus sérieux, où est-ce que j'ai découvert ça ? Je crois que j'ai découvert ça plus tard, beaucoup plus tard.
Parce que là, on va parler peut-être du plus grand producteur au monde.
Ouais, alors.
Je sais pas.
Oui, alors oui, je vois où tu veux en venir. Non, ça, je m'en rendais pas compte au départ. Ça veut dire que c'était vraiment le truc de la musique. Et pour ça, et c'est pour ça que je kiffais autant la musique classique que, par exemple, j'étais fan de métal, j'étais fan des guitares héros. Joey Satriani, Steve Vai, tout ça. J'allais au concert, j'ai eu la chance d'aller voir tout ça quand j'étais jeune. Et c'était vraiment la musique en elle-même. Il n'y avait pas l'histoire encore des producteurs derrière, etc. Et effectivement, pour faire le lien... quand j'ai découvert, parce que c'est ça, quand j'ai découvert que la musique soul bossa nova, c'était un américain, un noir américain qui s'appelait Quincy Jones, et puis qu'après en écoutant le reste, tu te rends compte qu'il y a plein de chansons que tu connais, qu'il y a dans ton inconscient culturel ou musical, et que tu te rends compte effectivement que derrière plein de musiques différentes, bah il y a le même gars. Comme tu dis, bien des années après, j'ai découvert que si Quincy Jones fait pas Off the Wall ou Thriller, bah les disques de Michael Jackson seraient pas ce qu'ils sont, quoi. Donc
il n'aurait pas forcément pensé Michael Jackson tout seul à mettre un peu de soul makossa dessus, peut-être.
Exactement. Ou voilà. Et ça et autre inspiration ou le lien, voilà, qu'il a fait. Il y a d'ailleurs.
Ou Christopher Lee sur la voix de Thriller.
Exactement, exactement. Mais non, mais voilà, c'est... Ou de demander au mec de Toto de venir travailler sur les morceaux Rod Temperton, etc., etc. Donc ouais, c'est...
C'est l'été en ville, Summer in the City, Quincy Jones. C'était Quincy Jones. Alors on aurait pu l'écouter avec Soul Bossa Nova, avec la musique de l'Homme de Fer, avec beaucoup de ses productions,
Mr. Tibbs, voilà,
ou de ses compositions, parce qu'il faisait les deux. Summer in the City, une reprise. On continue l'émission avec DJ Martin. Ben oui, c'est DJ Martin aujourd'hui dans Champ Libre A. C'est la dernière de la saison. C'est la dixième, il me semble. Oui, c'est la dixième. On poursuit avec ces trouvailles que tu as pu faire du côté de l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, et qui pourraient, si elles étaient exposées, ces trouvailles-là, des gens qui ne connaissent pas encore le jazz, le funk, le graffiti, le cinéma, eh bien, les envoyer vers une carrière, peut-être. Toi, ça t'a envoyé très loin, en fait, ces découvertes-là. Animer des compétitions de breakdance partout dans le monde, aller encadrer aussi des équipes de jeunes garçons, jeunes filles qui font du graffiti.
Recevoir un rappeur américain, il y a deux semaines, qui, grâce à un disque qu'on a fait ensemble, a eu son passeport et est sorti des États-Unis pour la première fois de sa vie à 38 ans. Il y a deux semaines, il y a un artiste américain qui s'appelle Tino, qui est venu chez moi pendant deux semaines. Donc, en gros, j'ai fait un disque avec ce mec-là, et encore même avant, grâce à Internet, j'ai capté un rappeur américain qui est inconnu, mais comme moi je suis inconnu, hein. Je lui ai proposé de faire un morceau, il a accepté. Alors pour expliquer très rapidement, les rappeurs américains, la plupart du temps, c'est le business, donc ils disent, moi je veux bien te faire un morceau, mais il faut payer. Donc là, tout a été fait sans parler d'argent. On a fait un morceau, puis deux morceaux, puis trois morceaux, jusqu'à sept morceaux. Et moi je lui ai dit, voilà, c'est simple, t'as travaillé gratuitement, on a fait quelque chose ensemble, j'ai un label, je te propose, on sort le disque, et puis on vend le disque en vinyle et en digital, et puis si on fait des bénéfices, on partage et tout. Donc le disque a fait son petit bout de chemin, en gros on a fait 300 exemplaires, pareil, alors pour faire lien, pochette sérigraphiée maison, fait dans la cuisine, etc., peint à la bombe et tout. Et donc tout ça a été vendu, et lui, grâce à ce disque-là, donc c'était son premier album qui sortait, moi j'ai eu la chance d'en sortir d'autres avant, et grâce à ce disque-là, il a eu une bourse, donc il vient de Dayton dans l'Ohio, donc tout le monde connaît entre guillemets Dayton et l'Ohio, mais il faut savoir que c'est une ville, c'est plus petit que Rennes, et grâce à ce disque-là, il a eu une bourse de la ville, et pour faire le deuxième disque, la suite en fait. Donc un jour il m'a appelé, il me dit, écoute, je viens en France, et puis on va travailler sur le deuxième album. Et l'histoire qui est assez folle, c'est que, pareil, donc c'est un ricain qui a 38 ans et le mec est jamais sorti des États-Unis. Donc, et carrément même, il est jamais allé à New York. Bon, après voilà, c'est les Américains qui vivent un peu dans leur monde fermé.
Chacun dans leur pays qui est un État en fait, ou l'inverse.
Et donc pour la petite histoire, et là sur les réseaux sociaux, il a posté son passeport, parce que pour la première fois il a eu un passeport, et la pochette du disque, et il a dit, voilà, vous pouvez pas savoir comment ce disque a changé entre guillemets ma vie, et a fait que voilà, je peux découvrir. Donc ça, c'est pareil. Et pour revenir à ce qu'on disait, tu m'aurais dit à 15 ans, tu vas faire un disque avec un rappeur américain, et puis il va venir chez toi, et puis il va avoir une bourse, et puis il va kiffer, et puis voilà, ça va être une rencontre dingue. Je t'aurais dit, et avec le reste, tu vas faire les championnats du monde de breakdance, mixer tes morceaux vont être joués dans le monde entier, ou tu vas faire du graph, que ce soit sur la façade de Louis Vuitton, mais aussi en Inde, dans des bidonvilles et tout. Je t'aurais pas cru une seconde. Et c'est vrai que tout ça, pour revenir, c'est grâce à cette culture, c'est grâce à cette, pas de soif de connaissance, mais voilà, de découvrir, d'aller chercher, de passer du temps, justement, les mercredis après-midi à la discothèque et à la bibliothèque, de lire des livres. Oui, lisez des livres.
Ah oui, bien sûr, il y a où on est, mais il y a aussi qu'est-ce qu'il y a autour et où on va. Et tout ça, ça se mélange et ça fait des humains plutôt plus cool que certains qui s'appellent Gérald Darmanin. Mais bon, ça, c'est autre chose.
La si Pibavard, tu nous écoutes, Gérald.
La Pie Bavarde, en tout cas, c'était la première collaboration avec Tino et Martin. C'était en 2022. La suite, c'est pour bientôt.
Voilà, normalement 2025 si tout va bien.
Voilà. On se balade donc dans tes trouvailles, et là un livre énorme, c'est des gros livres que tu as apportés, Jazz
avec beaucoup
covers,
d'images.
Des images magnifiques, on connaît la qualité des pochettes des disques du label Blue Note, mais il n'y a pas que ce label-là qui a fait des belles pochettes.
Surtout, moi, le truc qui est là, ce que tu disais, surtout ce qui est génial, c'est ne faut pas juger un livre par sa pochette ou un disque par sa pochette, mais en même temps, effectivement, et c'est assez intéressant, à cette période-là, les vinyles et les pochettes de disques étaient aussi utilisés comme en tant qu'œuvre d'art ou en tant que, comment on pourrait dire, propagateur de... Ça se dit, propagateur ? Ouais, d'idées, d'influences,
etc. Et ça, tu parles d'une période dans les années 50 à 1970, peut-être, quelque chose comme ça.
Un petit peu, ouais, comme ça. Ben là c'est un petit peu ça. Jazz cover. Maintenant, c'est vrai que le jazz existe après aussi, dans les années 80. R.I.P. Non, je rigole. Et du coup, effectivement, il y avait tout ça. Tu vois, par exemple, un truc tout con, et ils en parlent, même que ce soit Quincy ou les musiciens noirs, ils en parlent. Ça veut dire qu'à un moment, ils sont en photo sur les pochettes. Ils existent. Au-delà de ça, il y a quand même tout un travail, et là ça revient, les pochettes, c'est aussi de la typo. Qui dit typo dit lettrage, qui dit lettrage dit graffiti, dit couleur, dit voilà, architecture, design, et tout ça effectivement c'est lié à la fin. Pour ceux qui savent pas, voilà, moi, mon label, la plupart des pochettes qui sortent sur mon label, ou en tout cas mais les pochettes de midi, c'est moi qui les fais, et puis des fois je participe aux pochettes des autres. Donc et, encore une fois, tout ça, je me rends compte, et aujourd'hui, et grâce à toi, voilà, je me rends compte que tout ça, c'est lié.
Décris-nous, par exemple, une très, très belle pochette de ce bouquin Jazz Covers, qui, par exemple, pourrait te dire, oh oui, là, je prendrais bien cette composition-là, ces couleurs-là, ou alors ce lettrage-là, pour en faire quelque chose que je mettrais en 12 par 8 sur un immeuble à New Delhi.
Alors oui, alors il y en a plein. Alors, pour la petite... anecdote, là, je tombe sur une page d'un disque qui s'appelle Abbey Lincoln, que j'ai découvert, je connaissais pas cet artiste, que j'ai découvert grâce à ma chérie, et que dont j'ai fait un petit remix il y a pas longtemps, voilà, parce qu'il y a un morceau qui était magnifique. Donc là, je suis tombé dessus. L'autre côté, voilà. Alors Hank Mobley, je me rappelle effectivement, par exemple The Turnaround, c'est un des premiers souvenirs de pochette de Blue Note de jazz.
C'est ultra minimaliste, c'est ultra moderne.
C'est ça.
C'est les années 50.
Et ça, et en même temps, c'est Beat Nuts. Le premier album de The Beat Nuts, c'est exactement la même pochette, sauf que la flèche, elle est rouge. Sinon, c'est exactement la même pochette. Et bah, pareil, tout ça, je le découvre et je me rends compte que bah, là, comme on disait, Quincy Jones, où là, on n'a pas parlé, mais Quincy Jones, il était aussi, il travaillait beaucoup avec Eddie Barclay. On se rend compte des ponts, en fait, qu'il y a des ponts partout. Ce qui est pas mal, c'est que ce qu'on retrouve dans la musique ou dans l'art, on le retrouve dans la vraie vie. Ça veut dire que personne ne vit chacun dans son coin. Il y a des ponts et il y a des liens partout avec toutes les cultures, avec toutes les personnes qui soit différente, qu'elle soit sympa ou pas sympa. Salut Gérald Darmanin.
C'est Cloud, I'm Black and I'm Proud, James Brown à l'instant. Le parrain de la soul, oh bah, je sais pas, l'inventeur du funk, je sais pas comment on peut l'appeler celui-ci. Un roi, en tout cas, c'est sûr.
Voilà,
là, tu es d'accord. Toi, tu n'es pas le roi du funk, ou de la funk, tu peux
mais,
pas dire ça.
Non, pas du tout, bah, moi je suis rien du tout. Mais oui. Incroyable, un mec incroyable, un fou, mais comme tout un passionné, comme tous les, on va dire, comme tous les génies, comme tous les artistes. Mais incroyable. Là, il n'y a pas longtemps, on m'a raconté l'histoire du Funky Drummer. Apparemment, Funky Drummer, ça a été enregistré genre après un concert à 4h du mat. Genre, les mecs, ils ont joué pendant 3h. Et après, le mec, James Brown les a ramenés dans un studio. Il a dit, vas-y, on enregistre le morceau. Tu vois.
Ce qui va devenir un des morceaux les plus samplés, en fait, dans l'hip-hop.
Voilà, des plus samplés, des plus utilisés, et aussi des plus dansés, etc. Un truc iconique, quoi.
DJ Martin aujourd'hui dans Champ Libre A, dixième du nom, dans cette dernière émission crème de la crème de la saison. C'est pour ça que le format est un peu plus long aujourd'hui. Eh oui, parce que c'est la dernière. On a droit à un peu de bonus. On a évoqué quelques belles pochettes de disques de jazz. Il y a le label Blue Note, évidemment, qui est celui qui a été le plus smart, le plus élégant, le plus classe du monde. À une époque, on a tous en tête quelques pochettes de Lee Morgan, par exemple, de Hank Mobley que tu citais tout à l'heure. Jetez-vous sur les bouquins de photos de Blue Note.
Et en plus, je suis désolé, hein, mais c'est pas que je veux parler d'actualité, mais il y a quand même un truc qui est, je veux dire, intéressant. Blue Note, la petite histoire derrière le label aussi, c'est deux immigrés juifs allemands qui sont venus avant que ça parte en cacahuète avec les nazis, avec le Troisième Reich. Donc il y a aussi un lien, et on peut aussi faire le lien, pas avec ce qui se passe en ce moment, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que ça existait du fait que ces gens soient venus aux États-Unis. Et encore une fois, c'est des juifs blancs qui ont fait un label de jazz où la plupart des musiciens, c'était des noirs. Et alors attention, je veux bien être clair de ce que je suis en train de dire. C'est que ils ont laissé, et c'est ce qu'expliquent les musiciens, ils avaient quand même une liberté, pas totale, mais presque. Et même sur le choix des covers et tout ça, de la création artistique, il y avait vraiment une grande liberté, et puis une volonté de faire la différence avec ce qui existait déjà. Et voilà, tout ça, c'est quand même très important à dire.
Il faut aller ensemble.
Voilà, c'est ça.
C'est ça que ça veut dire. Pochette de Dirty Deezer, tiens, DJ Martin. J'ai ça dans la main.
De la dérive.
J'ai trouvé ça dans la discothèque de Canal B. Là, on voit une photo que tu as faite toi-même.
Ouais.
C'est quoi cette photo?
Ouais. C'est une photo que j'ai prise où j'étais parti, je dis pas de bêtises. C'est en Angleterre, mais c'est quel pays? Est-ce que c'était à Manchester? Je crois que c'était à Manchester, je crois. Et à part le Dirty Deezer, tout, c'est une vraie photo.
Parce qu'il y a.
Il y a marqué Dirty Deezer, voilà.
Impérial avec un super visuel très, très 70s, là.
Exactement. Et pour la petite histoire, j'étais parti en. Cette photo, je l'ai fait dans le cadre d'une. J'ai fait assistant pour une artiste qui est une des précurseuses du street art en France et qui est une artiste contemporaine qui s'appelle Tania Moreau, qui aujourd'hui est reconnue mondialement. Voilà. Et du coup, j'étais parti pour... Elle faisait une expo en Angleterre et je faisais son assistant, donc j'accrochais ses, voilà, ses œuvres.
On arrive vers la dernière partie du voyage de DJ Martin au deuxième étage de la bibliothèque des Champs-Libres, c'est-à-dire peut-être le plus petit voyage que tu aies fait et pourtant le plus grand en même temps, puisqu'on peut aller aussi bien vers Lalo Schifrin, Quincy Jones, James Brown, les pochettes de chez Blue Note, Eric Satie. Et on va aller vers la fin, vers une aventure plus lointaine encore. Tu as, sur ce mix que j'ai... DJ Martin de La Dérive, tu as utilisé quelques morceaux funk bien connus, puis des choses complètement obscures. Est-ce qu'il y a des choses indiennes sur ce...
Alors, sur ce disque-là, il n'y a pas encore de musique indienne, mais il y a un morceau qui s'appelle, et du coup, ça sent quand même les prémices, qui s'appelle Curry Korma Paradise, qui est fait avec un disque, si je dis pas de bêtises, chinois, je crois. Hein. Il n'y a rien qui est écrit en...
Comment dire, écriture romane.
En écriture latine, voilà. Pardon, excusez, non. On ne veut pas manquer de respect à la communauté chinoise. Et donc ça, mais pareil, et je me rappelle que le clip, je l'avais fait, j'étais à Singapour. J'avais filmé, voilà, à Singapour. Donc il y a quand même déjà une volonté et un amour d'aller plus loin, chercher toujours, voilà, rechercher les autres sonorités, se coucher moins bête le soir.
C'est arrivé comment finalement, le fait que tu t'intéresses particulièrement à la musique de films indiens ou pakistanais, mais indiens principalement au début?
Alors je pense que encore une fois c'est un processus, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure Beatnuts, par exemple le hip-hop, c'est grâce au hip-hop que j'ai découvert la soul et le funk, même s'il y avait Lalo Schifrin avant, mais c'est juste à un moment tu cherches, t'écoutes les samples, tu découvres que justement par exemple Far Side, Pass Enemy By, ben justement c'est Quincy Jones, Summer in the City, donc voilà, tout ça c'est lié. Et quand tu te rends compte que voilà, ça a été samplé, tu te rappelles Guns N' Sitar, c'était quoi, Bombay The Hard Way de DJ Shadow. Donc tout ça, tu découvres qu'il y a d'autres musiques la musique européenne et la musique occidentale, et puis qu'il y a plein d'autres choses. C'est comme ça que c'est venu en fait.
Et assez rapidement, tu vas à la fois aller chercher des disques et puis aussi te dire mais pourquoi je peindrais pas ici aussi, et tout se mélange encore, quoi.
Tout se mélange encore. Et pour montrer que vraiment tout est lié, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, j'ai dit bonjour à un gars dans les couloirs.
Ah, c'était à Canal Luthor, c'était Xavier,
voilà,
qui est le directeur de la Fair Rock.
Voilà, exactement. Et en fait, mon premier voyage en Inde, je le fais parce qu'on est invité par Ex Machina à faire une tournée, à aller faire des graphes avec deux autres graffeurs, Miguel et Kefli. Et bah Xavier était avec nous en fait, donc voilà, c'est marrant de le retrouver là. Et ouais.
Le monde est vraiment petit, c'est dingue.
L'avant-dernière pause musicale dans cette discussion avec DJ Martin pour évoquer ce bel objet que tu as dans les mains, B-Movie Archives.
Exactement, alors c'est un coffret DVD sur les B-movies, donc on va dire les films, les mauvais films on va dire, mais où souvent la musique, à l'image aussi des films de boules des années 70, la musique était de très bonne facture, c'est parce que justement les gars ils avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient en fait. Et dedans ils ont mis quand même un peu des films qu'on appelle des films Bollywood, qui pour moi sont pas des films de série Z, c'est un autre genre cinématographique.
Des opéras au cinéma, quoi.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est un genre bien particulier, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Eux, ils rigolent quand ils voient les films européens, ils comprennent pas, ils disent, mais c'est quand que ça chante? Voilà, normalement, ça chante et ça danse dans le film, ça fait partie du truc. Et Darmatma, ça a été samplé par un duo de producteurs-rappeurs, MF Doom et Madlib, dans le disque qui s'appelle J-Lib. Et voilà, pareil, ça, c'est le genre de truc qu'on a découvert par le biais des différentes musiques, quoi.
Et tout ce qu'on écoute et tout ce qu'on évoque aujourd'hui avec DJ Martin, vous le retrouvez bien sûr au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres. Alors évidemment, il y a des choses qu'on évoquait qui n'étaient pas dans ta sélection. Tu es insatiable et c'est un infini, donc vous pouvez continuer à aller...
Ça déborde tout le temps.
On va terminer cette discussion en évoquant quand même la sortie récente pour le label Stereofunk de l'album live des Selenites, Selenites Band, qu'on diffuse sur Canal B ces temps-ci. La prochaine étape, ce sera peut-être de sortir un album d'un groupe indien ou pakistanais qui reprend des grands tubes, des films des années 80.
Ce serait mon rêve.
Mais en tout cas, parle-nous en quelques mots des Selenites avant qu'on aille vers la dernière sélection musicale.
Eh ben, écoute, Selenites Band, ben, tu vois, pareil, un peu l'image de tout ça. J'ai eu la chance un jour de tomber sur un morceau qui jouait, à savoir, c'était un morceau de musique qu'on appelle Ethiopia. Jazz, donc voilà, de jazz éthiopien qui marche avec des gammes pentatoniques, donc voilà, 5 notes, donc voilà, un petit peu particulier. J'ai écouté, j'ai trouvé ça bien, je me suis rendu compte que c'était des Français, qu'ils n'avaient jamais sorti de vinyle, et je les ai contactés en leur proposant de faire un disque ensemble. Et la petite histoire, donc on a sorti un premier disque, on a tout vendu, on a fait un second disque ensemble, qu'on a tout vendu aussi. Et puis là, on a fait un live où il y a la moitié des morceaux qui existent déjà sur les autres disques, mais en live, et d'autres compositions inédites, et en plus avec d'autres musiciens. Et on va dire que c'est un petit peu la continuité de ce qu'on fait. Et pareil, un côté très... artisanal, c'est-à-dire que on a tout fait nous-mêmes, les pochettes ont été faites en sérigraphie par nos soins, avec moi et Antoine, le leader, le boss, le chef du groupe. Et voilà, le but du jeu, c'est de se faire plaisir, de sortir des disques à petite quantité, d'essayer de garder voilà, un truc humain. Maintenant, les disques, on les fait fabriquer en France, à moins de 300 km d'ici. Donc, on peut aller les chercher en voiture. C'est fabriqué, pareil, artisanalement. Et du coup, on se retrouve... Y a une espèce de logique, en fait, dans le truc, quoi.
On va terminer avec une série, un label, la BB Funk, qui va piocher dans les musiques... du Maroc, d'Algérie, d'Afrique, et qui...
Du monde arabe, on peut dire, en général.
Mais qui le fait de belle manière, en fait. Alors évidemment, on pourrait se dire, oh, mais c'est de l'appropriation culturelle, c'est mal, c'est pas bien. On va pas le dire, parce que ils vont vers les musiciens, ils essayent de retrouver leurs traces aussi. Il y a un côté vraiment d'artisan, je trouve, de la musique chez ABB Funk. Qu'est-ce qui te plaît chez eux?
Alors, ce qui me plaît déjà, c'est déjà en premier la musique. Grâce à eux, grâce à ces compilations et grâce aux albums qu'ils ont sortis, j'ai découvert plein de choses. Alors moi, en tant que musicien, en tant que mec qui a un label, il faut pas oublier que tous les artistes qui ont été méconnus ou inconnus dans les années 70, il y en a plein qui ont revécu grâce aux compilations, grâce aux samples. Il y a le David Axelrod qui a été samplé par Dr. Dre qui dit ça en fait. Le mec, il est à moitié mort. Et next épisode de Dr. Dre et un autre morceau, lui ont permis d'avoir une seconde vie. Et je parle financièrement en fait. C'est-à-dire que la plupart de ces gens-là, c'était des génies, mais ils mangeaient des cacahuètes. Je fais un petit clin d'œil en plus, parce que là, tu auras l'occasion de les inviter. Pas ce groupe-là, mais une partie du groupe. Par exemple, aujourd'hui, il y a un groupe français qui s'appelle Cortex, qui a sorti des disques dans les années 70 qui ont été aussi samplé par Madlib, par plein de gens. Aujourd'hui, ils font des tournées aux États-Unis avec Jazz is Dead, Ali Shahid Mohamed et Adrian Young. Et aujourd'hui, ces gens-là, quelque part, leur renouveau, ils sont connus des jeunes grâce au fait qu'ils aient été samplés par les rappeurs. Et pourquoi je te parle d'eux et je dis tu pourrais inviter, c'est que là, alors c'est là, pour moi, c'est la très très grande classe. Le batteur qui accompagne donc le groupe Cortex à la tournée américaine de Jazz is Dead, c'est un mec qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, Victor, je me trompe sur son prénom ou pas, au bref, qui fait partie de Namas Trio et qui a un groupe, Rennais, qui joue ici, qui ont fait leurs armes ici. Voilà, donc c'est pareil, la boucle est bouclée, c'est assez, assez dingue.
On va en Égypte pour terminer avec...
Voilà, avec Alma Syrian et le morceau s'appelle Sah.
On aurait pu passer 2 heures en compagnie d'Izé Martin et il aurait manqué encore 2 heures pour qu'on arrive au bout de toute la matière qui était présente ici et que tu as trouvé à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. C'était la dernière émission Crème de la Crème de la saison. On se retrouve tout l'été bien sûr dans les émissions de Boule Vanille. Je serais heureux d'accueillir les invités que tu me présentais il y a quelques instants.
Grave, je te les mets en contact direct. Un grand merci.
Merci Martin.
Merci.
À bientôt. Salut. غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح والف صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حبي اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحبك ودي أول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح وألف صح عرفت أحلم وأغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح C'est avec ce fantastique morceau de Al Masrin que se termine Crème de la Crème aujourd'hui et Champ Libre A, 10e du nom. On était avec DJ Martin. Je remercie bien sûr Clarisse Mérour et Antoine Blanchet au Champ Libre pour leur participation et pour leur secours qu'ils ont pu apporter tout au long de la saison. C'est la fin de la saison d'ailleurs pour Crème de la Crème. On se retrouvera tout cet été avec des émissions de Boule Vanille et puis retour aux émissions de fin d'après-midi de l'autre côté de l'été. Qu'il soit doux, qu'il soit beau, qu'il ne se transforme pas en véritable cauchemar après les élections qui s'annoncent. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح